Le journal présenté par Lise Verbeek.
Bonsoir. Ils se sont dit oui, François Bayrou ne briguera pas l'Elysée, mais il a tendu la main à Emmanuel Macron qui l'a accepté. Le maire de Pau a mis fin au suspense tout à l'heure, nous l'entendrons et nous serons également avec le secrétaire général du Modène, Marc Fesneau. Deux sénatrices ont présenté aujourd'hui un rapport sur la politique de déradicalisation mise en place en France. Des mesures inefficaces, disent-elles, et des acteurs généralement incompétents. Jean-Marc Ayrault était à Dublin toute la journée, il a rencontré le Premier ministre irlandais pour évoquer les craintes du pays sur le Brexit. Précision avec Nadine Epstein. Finalement, François Bayrou ne se lance pas dans la course à l'Elysée pour la première fois depuis 2002. Le maire de Pau a mis fin au suspense cet après-midi. Il propose une alliance avec Emmanuel Macron, alliance acceptée par le candidat d'En Marche qui parle de tournant dans la campagne présidentielle. Écoutez François Bayrou qui était l'invité du 20h de France de ce soir.
Ce qui me frappe, c'est que, au fond, les Français attendaient qu'il y ait un espoir, que quelque chose apparaisse dans cette campagne électorale. On avait l'impression d'être dans un marécage, et un marécage dans lequel tout le monde, tous les citoyens s'enfonçaient. Et il fallait quelque chose qui permette d'en sortir, et ce quelque chose ne pouvait pas être dans les mots. Les mots, il y en a trop, on a l'impression d'en avoir soupé. Il fallait que ce soit dans les actes, pas seulement des paroles, comme vous disiez autrefois, mais des actes. Mais il fallait un acte qui soit fondateur de quelque chose de nouveau. Je crois que cet acte a atteint, touché un grand nombre de Français.
François Bayrou, ce soir sur France 2. Bonsoir Marc Fesneau.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général du Modem. Alors pourquoi François Bayrou ne s'est-il pas présenté comme candidat à la présidentielle ?
Parce qu'il a estimé que dans la situation dans laquelle était le pays, comme on vient de l'écouter et l'entendre, et dans la situation de trouble de l'opinion, il convenait de faire des gestes qui étaient des gestes plutôt inédits dans la vie politique française. Nombre d'entre nous, et beaucoup, pensaient que c'était bien que François Bayrou soit candidat. Et en même temps, dans des moments très particuliers, on voit bien tous les risques de cette présidentielle de 2017, il fallait qu'il y ait des gestes un peu nouveaux, et des gestes qui montrent qu'au-delà des personnes, il y avait une nécessité de trouver des rassemblements. Et à vrai dire, Bayrou a toujours prôné ces rassemblements larges. Et donc il fait le geste et la proposition d'alliance qu'il a faite cet après-midi à laquelle a répondu Emmanuel Macron pour signifier aux Français qu'on essayait de trouver un chemin en commun.
Pourtant François Bayrou décriait Emmanuel Macron il y a quelques mois, je cite quelques tweets, « Derrière Emmanuel Macron, il y a les grands intérêts financiers incompatibles avec l'impartialité exigée par la fonction publique. » Ou encore « Peut-être que dans 15 ans, il aura vécu ce qu'il doit vivre, Macron sera prêt, mais pour l'instant il n'a rien. » Pourquoi ce revirement soudain ?
Mais il assume ce qu'il a écrit, simplement, d'abord, je crois qu'Emmanuel Macron lui-même a cheminé, et deuxièmement, dans les exigences, on va pas parler d'exigences, mais en tout cas, dans les principes que nous posons de ce que nous portons comme valeur, en termes de moralisation de la vie publique, en termes de lutte contre les conflits d'intérêts, les choses sont posées sur la table, elles sont posées publiquement, et Emmanuel Macron a choisi d'y répondre favorablement, et donc, faisons crédit à ces deux personnalités de faire en sorte de cheminer et de lever les inquiétudes ou les interrogations qu'il pouvait y avoir. Après, il y aura la question du projet et du programme. Emmanuel Macron a un calendrier, comme tout le monde, et c'est normal qu'il prenne le temps de son calendrier. Et à partir de là, on pourra construire quelque chose de solide. Tout ce que dit Bayrou, il le rend public. Et quand il y a des choses avec lesquelles il a ou des inquiétudes ou des incertitudes, il le dit. Et quand il pense que celles-ci peuvent être levées, eh bien, il fait le pas qu'il faut.
Mais certains parlent d'incohérence, même de volte-face carrément de François Bayrou.
Je vois pas où est la volte-face, il assume ce qu'il a écrit. Et par ailleurs, il dit dans ses déclarations, il ne dit pas « je fais alliance » ou « je fais un partenariat avec Emmanuel Macron », il dit « les grands principes que je pose sont des principes en particulier se tourner autour de la moralisation de la vie publique ». À partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il fait le même chemin que vous et qu'il est prêt à proposer une grande loi de moralisation de la vie publique et de lutte contre les conflits d'intérêts, il y a quand même une logique qui s'avance, c'est une logique qui s'impose aux uns et aux autres. Donc c'est normal. Et d'ailleurs, ces affaires de conflits d'intérêts, c'est pas forcément le milieu politique qui est en cause uniquement. C'est tous ceux qui, naturellement, ont toujours envie d'être bien avec le pouvoir qui se met en place. Et donc, il faut protéger les hommes politiques aussi de ces conflits d'intérêts. Et donc, c'est pour ça qu'une grande loi de moralisation est utile.
Alors, justement, François Bayrou propose donc une alliance sous condition avec des exigences acceptées par Emmanuel Macron. Quelles sont ces exigences, outre donc la loi de moralisation de la vie politique ?
L'exigence aussi d'une alternance claire. L'idée, c'est qu'on sorte de ce quinquennat comme il fallait sortir du quinquennat précédent. C'est qu'on soit dans une alternance profonde. La troisième exigence, c'est que dans un moment où on voit bien, il y a des fractures dans la société française, on fasse attention à ceux qui dans cette mondialisation qui est très difficile, qui est très difficile à accepter, qui est très difficile à vivre, dans cette compétition internationale, on laisse personne sur le bord du chemin, et on soit pas dans le modèle un peu galopant des inégalités croissantes. Ça, c'est un élément important. Puis le dernier point, c'est l'affaire du pluralisme. C'est de faire en sorte que dans un pays, aujourd'hui, quand vous regardez les sondages, on peut leur accorder au moins ce crédit, vous avez le LR et le PS qui représentent environ 30% du corps électoral, du vote, et ils représentent 99% des sièges à l'Assemblée nationale. On peut plus continuer comme ça, parce que c'est un système qui est au bout du rouleau et qui est à bout de souffle, et qui exaspère les gens, parce qu'en plus, il empêche totalement que des gens puissent dialoguer sur des sujets qui sont des sujets centraux.
Mais sur la question des programmes, comment François Bayrou peut-il proposer une alliance à Emmanuel Macron alors que celui-ci n'a pas encore présenté son programme complet ?
Eh bien, c'est mieux que ça se fasse au moment où justement Emmanuel Macron, c'est donc le moment opportun, au moment où Emmanuel Macron est en train de travailler sur le programme. C'est plus facile à ce moment-là que de dire « j'ai un programme, j'en bougerai pas ». On voit ce que fait François Fillon et que Philippe le bouge. Donc au moment où le programme s'élabore, c'est peut-être le meilleur moment pour dire voilà nos points de convergence et voilà ce qu'on va porter en commun.
Et est-ce que les militants Modem vont suivre François Bayrou ?
Oui, je crois qu'ils ont compris la démarche. Je suis secrétaire général, mais j'ai une âme de militant. Comme tout le monde, on a toujours envie de défendre les couleurs de son parti. François Bayrou l'a fait en maintes occasions. Il y aura des occasions, mais en même temps, je crois qu'ils ont compris l'enjeu qui était le nôtre et comment on pouvait faire on était peut-être les seuls à pouvoir faire ce geste de recomposition du paysage, et je crois qu'ils l'ont compris ce soir. Moi, les nombreux témoignages que j'ai eus ce soir comme secrétaire général, des élus et des militants qui m'appellent évidemment, on était dans ce sens-là en disant on est forcément un peu déçus, mais en même temps on comprend le geste.
François Bayrou avait soutenu Alain Juppé au premier tour de la primaire à droite. Est-ce que cette alliance est un appel du pied aux juppéistes qui pourraient être déçus de François Fillon ?
Bon, les juppéistes y prendront leurs responsabilités, on n'est pas là pour leur donner des conseils, mais en même temps, on était sur la même proposition. C'était une proposition de quelque chose qui dépassait les frontières et qui permettait d'ouvrir un peu large le spectre pour pouvoir gouverner le pays. Et donc je pense que des gens qui ont sincèrement soutenu Alain Juppé peuvent retrouver dans la démarche que nous portons, et après eux, ils prendront leurs responsabilités, ils peuvent trouver dans la démarche que nous portons un vrai intérêt et une vraie logique.
Dernière question, François Bayrou avec cette alliance, pense-t-il à des places potentielles dans un gouvernement ou même à l'après-présidentiel, je pense aux législatives ?
Non, on n'est pas du tout sur une affaire de place, c'est pas du tout le dialogue qu'a eu François Bayrou. C'est d'ailleurs, ça se saurait si par nature il fonctionnait comme ça, il n'a jamais fonctionné comme ça. En même temps, quand se construit un pôle et un rassemblement comme celui-là, c'est une traduction législative, mais il sera temps de le voir quand il sera temps de le voir. Parlons d'abord du projet et du programme, parce que c'était un élément essentiel, et c'est y compris quand François Bayrou avait rencontré François Fillon pour lui faire part de ses désaccords, c'est le point essentiel sur lequel il a débuté en disant je ne peux pas rentrer dans une logique d'alliance avec des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord sur le programme. On travaille sur le programme et il y a une mécanique qui s'enclenche après d'un point de vue législatif, évidemment.
Merci Marc Fesneau d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Modem.
Merci à vous.
Après la perquisition au siège du FN à Nanterre lundi, deux collaborateurs ont été placés en garde à vue aujourd'hui, deux proches de Marine Le Pen. Il s'agit de son garde du corps et de sa chef de cabinet. Catherine Griset et Thierry Léger sont entendus dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'emploi fictif des assistants du Front National au Parlement européen. Ils ont passé la journée dans les bureaux de l'Office anticorruption. À l'issue de sa garde à vue, Catherine Griset a été mise en examen pour recel d'abus de confiance. Le garde du corps, lui, a été remis en liberté. Aucune charge ne pèse contre lui. Sur TF1, tout à l'heure, Marine Le Pen conteste à nouveau formellement les faits. La justice ne doit pas perturber la présidentielle, a-t-elle déclaré. Deux sénatrices étrillent la politique de déradicalisation menée par les autorités françaises. Elles co-président la mission d'information sénatoriale qui s'est penchée sur cette politique et parlent de fiasco. Elles dénoncent notamment Florence Sturm, des associations qui ont profité des appels d'offres lancés à la hâte autour des programmes de déradicalisation.
Les associations retenues pour mener un travail auprès des jeunes en question l'ont été sans véritable cahier des charges ni grille d'évaluation, le programme ouvrant même la voie à un véritable business de la radicalisation, estime la sénatrice écologiste Esther Benbassa.
Les associations qui étaient en manque de subventions ont pensé qu'elles pourraient s'engouffrer dans ce créneau où il y avait de l'argent. L'argent attire beaucoup de monde en général. Et qu'il y ait de l'argent, c'était normal. Il fallait trouver des solutions, n'est-ce pas ? Et bon, on n'a pas su faire le tri. Il y a des associations qui n'avaient pas les moyens, qui ont créé ce business. Mais il y a eu aussi des petites associations modestes qui ont mené un travail intéressant.
La mission cite plusieurs exemples précis à Nice, Bordeaux ou encore Colmar, où une association d'aide aux victimes travaille en étroite liaison avec le tribunal de Mulhouse et le centre hospitalier de la région. L'évaluation des acteurs associatifs apparaît désormais comme une priorité aux yeux de Catherine Trendley, sénatrice Les Républicains. Il faut aussi, selon elle, donner davantage de moyens aux chercheurs.
Quand on voit toutes les recherches qui ont déjà été faites, les chercheurs que nous avons entendus, il faudrait croiser toutes ces informations, prendre en considération justement tous ces travaux. Il faudrait aussi les entendre quand ils demandent à pouvoir accéder aux éléments du fichier de l'UCLAT. Ils ne demandent pas des éléments très très précis, même sous la forme d'une anonymisation, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, justement, la Belgique travaille sur un projet de loi pour un accès à d'autres personnes sur ces éléments. Eux également ont une sorte de fichier.
La Belgique, où s'est rendue la mission, elle présente d'ailleurs le programme spécifique local mis en place à Vilvoorde comme un exemple intéressant à suivre. D'autres déplacements sont prévus, notamment en Norvège, et le rapport final sera présenté en juillet au prochain gouvernement. Le Brexit au cœur des discussions entre Jean-Marc Ayrault et le Premier ministre irlandais. Le ministre des Affaires étrangères était à Dublin aujourd'hui. Face à des Irlandais donc inquiets pour leur économie très dépendante de la Grande-Bretagne, les Irlandais qui multiplient les contacts avec leurs partenaires européens pour atténuer les conséquences du Brexit, à l'image donc de cette rencontre que vous avez suivie, Nadine Epstein.
Paris et Dublin veulent des pourparlers clairs et équitables, à l'instar d'un divorce ou d'une sortie de copropriété. Pas chose facile, explique Jean-Marc Ayrault, qui estime que la décision du peuple britannique doit être respectée, mais n'entraînera pas davantage. L'Irlande rappelle qu'elle est bien dans le camp de l'Union européenne, qu'elle a un rôle pivot à jouer dans la négociation du Brexit, grâce à sa connaissance et sa proximité avec le Royaume-Uni. Pour sa part, la France se tient aux côtés de l'Irlande, la soutient au nom de l'amitié, de la solidarité et des liens très forts qui unissent depuis longtemps les deux pays. Les échanges bilatéraux se sont renforcés ces dernières années et les deux États partagent la même approche concernant les pourparlers du Brexit. L'activation de l'article 50, puis pendant 2 ans, des négociations pour régler toutes les questions de la séparation avec comme objectif commun protéger l'Union européenne et définir les futures relations entre le Royaume-Uni et les 27. Parmi les enjeux délicats, la sensible question du rétablissement d'une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord et ses retombées humaines, économiques et politiques. Le ministre français des Affaires étrangères et son homologue irlandais sont tous deux convaincus que le sommet du 25 mars, qui marquera le 60e anniversaire du traité de Rome, réaffirmera l'engagement européen, ses visions et ses valeurs communes dans un monde de plus en plus incertain. Seul petit bémol à la bonne entente franco-irlandaise, le match de rugby de samedi prochain.
À Dublin, Nadine Epstein pour France Culture. Le port de la burqa est désormais interdit en Bavière, dans les administrations publiques, les écoles ou encore les universités. Cette mesure a été votée hier par le Land. Elle avait été proposée à l'échelle de toute l'Allemagne par Angela Merkel, mais retoquée par le Bundestag. La Bavière, très conservatrice, a donc adopté seule cette mesure symbolique. Les précisions de Birgit Radatz.
L'interdiction du voile intégral en Bavière concerne tout l'espace public. Les niqabs est en contradiction avec la culture allemande de l'échange, déclare le ministre bavarois de l'Intérieur Joachim Herrmann. Une politique uniquement symbolique, reprend l'une des porte-paroles des Verts bavarois, Verena Oskian.
On pense que la loi est non fondée parce qu'il n'y a pas de raison pour lancer une telle loi. Il n'y a que peu de femmes qui portent le voile intégral. En Allemagne, on estime que ça concerne 2000 femmes au maximum. La plupart sont des touristes qui viennent de l'Arabie saoudite et qui font du shopping au centre-ville de Munich.
7 mois avant les élections législatives, le gouvernement bavarois, dirigé par l'Union sociale chrétienne, CSU, reprend une proposition de son parti au niveau national. Les SPD se opposaient à une interdiction du voile intégral, interdiction que Angela Merkel, CDU, avait préconisée. En Bavière, une telle loi ne répond pas aux grands enjeux de l'immigration, critique Verena Oskian.
Imaginez une femme voilée qui n'osera plus aller voir une administration publique comme une cour de justice parce qu'elle a peur de violer la loi. On doit soutenir ces femmes en termes de communication. Moi aussi, je veux voir le visage des gens avec lesquels je communique, mais cela se discute uniquement sur la base des valeurs et non du niveau constitutionnel.
L'interdiction du voile intégral rentre dans les cadres des mesures de sécurité adoptées pendant la séance du Conseil des ministres bavarois. Parmi ces autres mesures, le port obligatoire d'un bracelet électronique pour les personnes fichées S.
Le temps pour demain, de la pluie et des vents violents sont attendus sur une grande partie de la France. Le Nord et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance orange vent toute la journée. Des éclaircies dans le sud-est. Les températures minimales seront comprises entre 5 et 9 degrés de la Bretagne au Pays de la Loire et sur le Nord, entre 1 et 8 degrés ailleurs. C'est la fin de ce journal préparé avec Jean-François Braun.